Vous écoutez, on lit pour vous.
L'effet placebo, le mécanisme cérébral dévoilé. Un texte de Stéphanie Bondu-Guiselin, paru le 17 février 2025 dans Québec Science. Une étude récente lève le voile sur un mécanisme responsable de l'effet placebo. Cette découverte pourrait changer notre manière d'aborder la gestion de la douleur. Imaginez-vous dans le cabinet de votre médecin, souffrant d'une douleur persistante et attendant avec impatience un traitement efficace. Comment réagiriez-vous si sa prescription n'était qu'une simple pilule de sucre? Autrement dit, un placebo, sans aucune substance active, mais capable de soulager votre souffrance, du moins en partie. Le bien connu effet placebo désigne l'atténuation des symptômes par la simple croyance en l'efficacité d'un traitement, alors que celui-ci n'a pas de propriété active. En d'autres termes, le fait de penser qu'un traitement soulage peut réellement diminuer la douleur, parfois de 2 à 5 points sur une échelle de 0 à 10. C'est un effet comparable à celui des opioïdes comme la morphine, précise le neuroscientifique Gregory Scherer, professeur à l'Université de Caroline du Nord aux États-Unis. La puissance de l'effet placebo a captivé les scientifiques dès les années 2000, les conduisant à explorer de manière plus poussée son potentiel pour soulager la douleur. Mais ce n'est que tout récemment que le circuit cérébral responsable de l'effet placebo a été mis au jour par l'équipe de Gregory Scherer. Lorsqu'on s'attend à un soulagement de la douleur, certains neurones spécifiques s'activent, ce qui entraîne une diminution de la perception de la douleur. Attention! Ces travaux publiés en juillet 2024 dans Nature ont été menés sur des souris. Chez l'humain, on peut observer les ondes du cerveau qui s'activent grâce à l'imagerie cérébrale, mais on ne peut pas identifier précisément les neurones impliqués dans l'effet placebo, ni prouver qu'ils sont directement associés à la diminution de la douleur. Pour ce faire, des techniques plus invasives seraient nécessaires, comme des interventions chirurgicales ou des implants cérébraux, ce qui pose des problèmes éthiques, d'où le recours aux souris. L'effet placebo chez les souris. L'équipe de Gregory Scherer a donc conçu un protocole de conditionnement spécifique pour ces rongeurs. Pendant les 3 premiers jours, les animaux évoluent dans 2 espaces communicants entre eux et chauffés à 30 degrés Celsius. Au cours des 3 jours suivants, le premier espace est brusquement chauffé à 48 degrés Celsius, une température qui active les nocicepteurs thermiques présents dans les pattes des souris, déclenchant une douleur. Cela engendre des comportements réflexes, tels que le léchage de pattes ou des sauts. Le second espace, accessible, reste toutefois à la température confortable de 30 degrés Celsius. Les souris apprennent donc à associer la première pièce à la douleur et la seconde au soulagement. Le 7e jour, les 2 chambres passent à 48 degrés Celsius, mais les souris conditionnées choisissent d'entrer dans la seconde, espérant y trouver un soulagement. Dans cet espace, elles font moins de mouvements d'évitement, ce qui illustre l'activation de l'effet placebo. Pour mieux comprendre le lien entre le fait de s'attendre à un soulagement et l'activité des neurones régulant la douleur, l'équipe a fait plusieurs expériences sur les souris conditionnées et témoins, dont l'enregistrement de l'activité cérébrale et le marquage génétique de certains neurones. L'équipe a pu montrer qu'un circuit cérébral particulier est activé lorsque les souris anticipent l'effet antidouleur. Ce circuit relie 3 zones du cerveau. Le cortex singulaire antérieur, impliqué dans la perception et le traitement de la douleur, le pont du tronc cérébral et le cervelet, responsable de l'apprentissage. C'est la première fois qu'une connexion directe entre le cortex singulaire antérieur et le pont est mise en évidence. Cela signifie que ces zones du cerveau, qui étaient auparavant considérées comme séparées, travaillent ensemble pour réduire la sensation de douleur. Cette découverte est particulièrement importante car jusqu'ici, le pont n'avait jamais été associé à la douleur. Nous pensions que le cortex contrôlait principalement le thalamus ou les amygdales, des zones liées aux sensations et aux émotions que l'on éprouve en cas de douleur, explique le professeur Scherrer. Mais là, surprise! Les neurones du cortex envoient des signaux et des connexions vers le pont du tronc cérébral. Or, les neurones du pont possèdent de très nombreux récepteurs opioïdes, des récepteurs qui réagissent normalement à la libération d'endorphines et qui sont donc visiblement impliqués dans l'effet analgésique. Lors de l'effet placebo, ces récepteurs s'activent, diminuant la douleur ressentie, et l'équipe a vérifié qu'en inhibant leur activité, les seuils de douleur diminuaient et les souris réagissaient davantage. Ces neurones envoient ensuite des signaux vers le cervelet, d'où certaines cellules spécifiques appelées cellules de Purkinier entrent en action. Ce sont les cellules impliquées dans la cognition qui s'activent, précise le prof Scherrer. Les études se poursuivent. Bien que cette étude ait été réalisée sur des souris, le chercheur se montre optimiste quant à la transposabilité des résultats. La structure des circuits de la douleur est conservée entre la souris et l'être humain, souligne-t-il. Jeffrey Mogill, titulaire de la chaire de recherche du Canada en génétique de la douleur à l'Université McGill, précise toutefois que l'effet placebo est un concept complexe, impliquant sans aucun doute des circuits de niveau supérieur en plus de ceux de niveau inférieur identifiés par Gregory Scherrer et ses collègues. Par exemple, le simple fait de conscientiser qu'on avale une pilule peut déclencher une réponse de soulagement de la douleur. Il ajoute que cette étude se concentre sur un sous-ensemble des circuits neuronaux jouant un rôle dans la douleur, ouvrant la voie à de potentielles découvertes en neurosciences et à la mise au point de molécules ciblant le pont du tronc cérébral pour réduire la douleur. Ces nouvelles perspectives suscitent un intérêt croissant. Comme le souligne Gregory Scherrer, de nombreux scientifiques souhaitent collaborer avec nous pour réexaminer leurs études en se concentrant sur l'activation du pont. De telles collaborations enrichiront la compréhension des mécanismes complexes de l'analgésie placebo. Cumuler médicaments et placebo. Rappelons que l'effet placebo peut être cumulé avec un traitement actif, ce qui signifie qu'il pourrait être exploité en pratique médicale pour renforcer l'efficacité de tous les traitements actuels. L'effet placebo illustre le lien entre l'esprit et le corps. Ce lien puissant peut donc être utilisé pour potentialiser n'importe quel traitement, confirme la psychologue et chercheuse en gestion de la douleur à l'Université du Québec en Outaouais, Stéphanie Cormier. Elle ajoute également que la manière dont un traitement est présenté aux patients influence les attentes de soulagement et optimise l'effet placebo. Un patient informé sera plus réceptif au traitement. Pas si anodine que ça, finalement, notre pilule de sucre. C'était l'effet placebo, le mécanisme cérébral dévoilé. Un texte de Stéphanie Bondu-Guiselin, paru le 17 février 2025 dans Québec Science.
Les dangers pulmonaires des incendies de forêt. Et autre nouvelle. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 février 2025 dans La Presse. Les incendies de forêt des dernières années affecte la qualité de l'air aux États-Unis, ce qui exacerbe les problèmes de santé pulmonaire. Voilà pourquoi des chercheurs tentent de trouver des solutions. Depuis les années 1970, la qualité de l'air s'améliorait d'année en année aux États-Unis, explique la pneumologue Mary Rice de l'Université Harvard, qui faisait le point sur les dommages causés par les incendies de forêt à la réunion de l'AAAS. La vie des gens ayant des problèmes pulmonaires comme l'asthme ou la maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, était meilleure. Mais depuis 10 ans, sur la côte ouest, la qualité de l'air diminue et sur la côte est, elle ne s'améliore plus. On pense que c'est directement lié aux incendies de forêt. Cette stagnation du niveau de qualité de l'air s'observe aussi au Canada, notamment parce qu'une partie importante de notre pollution atmosphérique vient des États-Unis. Cette nouvelle réalité est à l'origine de recherches sur des traitements protecteurs pour les gens aux poumons vulnérables pendant que sévissent les incendies de forêt. Et aussi sur les impacts à long terme des incendies de forêt sur les gens qui n'ont pas de problèmes pulmonaires. La pneumologue et professeure à l'Université Harvard, Dr. Mary Rice, dit « Quand un incendie de forêt survient, ce n'est pas seulement les arbres qui brûlent, il y a des édifices, des voitures. Des études montrent que les composantes les plus nocives de la fumée des incendies de forêt proviennent de la combustion du plastique. Ce contexte rend encore plus urgent l'établissement de programmes de brûlis contrôlés pour diminuer la quantité de bois mort dans les forêts qui, par la suite, peut devenir du combustible pour un incendie de forêt. Dans un brûlis contrôlé, aucun plastique n'est consommé. Des études montrent ainsi une augmentation faible mais bien réelle des mutations des cellules, ce qui pourrait faire augmenter les taux de cancer des voies respiratoires. Et la fumée crée de l'inflammation dans les voies respiratoires, ce qui entraîne plusieurs problèmes de santé. Mais il est trop tôt pour déterminer les risques à long terme associés aux incendies de forêt, hormis chez des gens qui y sont très exposés, comme les pompiers. Pompes et filtres. Les traitements protecteurs pour les asthmatiques et les patients atteints de MPOC sont aussi en préparation. Mais les approches préventives déjà disponibles ne sont pas assez utilisées, indique la Dr. Rice. Les filtres HEPA ou même MERV13 sont très efficaces pour protéger les asthmatiques et les patients atteints de MPOC. On peut aussi s'assurer que ces patients ont chez eux des pompes, dit-elle. Un programme de surveillance impliquant les pharmaciens permet d'éviter beaucoup de visites aux urgences liées aux incendies de forêt. La pneumologue bostonienne cite une étude canadienne de 2013 qui avait montré que chaque augmentation de 10 microgrammes par mètre cube de particules fines PM2,5 augmentait de 6% le nombre d'ordonnances de pompes pour asthmatiques. Selon un rapport du ministère de l'Environnement, les incendies de forêt de 2023 ont fait augmenter de plus de 10 microgrammes par mètre cube la concentration moyenne de PM2,5 dans la moitié des régions du Québec. Dans les pires jours et les pires régions, l'augmentation des PM2,5 a été de plusieurs centaines de microgrammes par mètre cube. Ces dernières années, les données inquiétantes sur les maladies pulmonaires liées aux incendies de forêt ont provoqué au Québec une remise en question des feux de bois extérieurs, notamment dans les parcs nationaux, ainsi que des foyers au bois. Ces pratiques sont-elles remises aussi en question au Massachusetts? Honnêtement, non, répond la Dr. Rice. Je ne pourrais pas dire qu'on est rendu à remettre ces pratiques en question ici. D'autres nouvelles. Réduire le suicide en prison. Une psychologue de l'Université Brown, Lauren Weinstock, a mis au point le premier programme de prévention du suicide chez les prisonniers auprès de 800 personnes incarcérées pour moins de 6 mois et considérées comme à risque de suicide. Dans ce groupe, certains avaient déjà fait une tentative de suicide, généralement peu de temps avant leur arrestation. En parallèle avec cette étude, Mme Weinstock mène un projet de liaison des bases de données hospitalières et judiciaires pour que les soignants de patients atteints de problèmes de santé mentale soient automatiquement prévenus quand ils sont arrêtés ou envoyés en prison. Le mystère de l'alcool et des poumons. Les alcooliques forment la moitié des victimes d'un syndrome respiratoire grave qui touche 200 000 personnes chaque année aux États-Unis, avec un taux de mortalité de 40% à 50%. Les mécanismes responsables des dommages pulmonaires liés à l'abus d'alcool ne sont pas encore élucidés. Des biologistes de l'Université de Monterey montrent à partir de bouillons de cellules humaines et animales que les vapeurs d'alcool endommagent des cellules pulmonaires appelées AEC2, impliquées dans la réparation des dommages aux poumons dus à la pollution et aux infections. Les cellules AEC2 servaient aussi de porte d'entrée au SRAS-CoV-2, le coronavirus responsable de la COVID-19. Des troubles alimentaires au suicide. Le suicide chez les victimes de troubles alimentaires fait l'objet de nombreuses recherches depuis une demi-douzaine d'années. Un psychologue de l'Université d'État de Floride, Thomas Joyner, montre que les patientes qui se font vomir présentent un risque accru de suicide. Les patientes qui ne se font pas vomir, mais qui font de l'automutilation, présentent aussi un risque accru de suicide, mais moindre que celles qui se font vomir. Paradoxalement, le traitement hospitalier peut, dans certains cas, augmenter le risque suicidaire parce que les patientes ont initialement une grande peur de mourir, ce qui réduit le risque. M. Joyner propose un suivi particulier des patientes à risque lorsqu'elles obtiennent leur congé de l'hôpital. C'était « Les dangers pulmonaires des incendies de forêt » et « Autre nouvelle », un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 février 2025 dans La Presse.
Les citoyens veulent plus de commerce, de transport et de logement. Un texte de Jean-Philippe Thibault, paru le 17 février 2025 dans Gaspésie Nouvelle. Dans la colonne des bonnes nouvelles, la majorité des citoyens de Gaspé ont un fort ou très fort sentiment d'appartenance, 78%, et disent avoir une bonne ou une excellente qualité de vie, 89%. Dans celle des choses à améliorer, l'offre de commerce, de restaurants et de services. Le taux de satisfaction est de seulement 2,6 sur 5. À l'image de l'actualité, l'enjeu du transport revient également sur le tapis, tant en transport collectif, 2,5, en transport aérien, 2,1, et en autocar, 2,6. Ces données sont tirées des consultations citoyennes menées cet automne et auxquelles quelques 1000 personnes ont répondu. Un échantillonnage relativement large pour ce genre d'exercice. La majorité des répondants sont établis à Gaspé depuis plus de 21 ans. La ville vient tout juste de partager la synthèse des résultats. 4 grands axes d'orientation stratégique ont été retenus. Le territoire, ainsi que les volets social, économique et interne de l'organisation municipale. Si le maire de Gaspé n'a pas été surpris outre mesure des résultats, l'exercice permet de mieux cibler et de mieux comprendre les préoccupations citoyennes. Les 3 plus grands bémols, ce sont des choses dont on se doutait. Globalement, c'est positif à l'égard de ce qu'on fait, mais les gens ont soif de développement. C'est ce que je retiens, résume Daniel Côté. Et ce, même si certains enjeux ne sont pas directement de compétences municipales, comme le développement de commerces, de restaurants et de services, qui arrivent en tête des priorités du volet économique. Ça relève directement du privé. Mais si on veut qu'un commerce soit rentable, ça prend de la clientèle. Pour ça, ça prend plus de monde avec davantage d'emplois en tout genre. On n'a pas beaucoup d'actions possibles, sauf créer un climat favorable à l'investissement. On ne peut pas donner des incitatifs financiers, mais on peut peut-être faire du démarchage plus agressif pour attirer des bannières et plus d'offres. C'est plus difficile, mais on peut donner un élan là-dessus, remarque le maire. Idem pour la desserte aérienne ou en autocar, qui est aussi du ressort du privé. En matière de développement du territoire, l'offre actuelle de logements constitue une insatisfaction importante, 2,2 sur 5. Plusieurs citoyens se disent aussi plutôt ou très préoccupés par les impacts liés au changement climatique, 82 %, un enjeu dont est conscient Daniel Côté. On sait qu'il faut s'adapter. On a une longueur d'avance avec la gestion des matières résiduelles en étant une des premières régions à faciliter le compostage et recyclage. On a adapté notre réseau de lumière LED. La plage de Rivière-aux-Renards est plus résiliente pour éviter la submersion côtière. On investit énormément. Mais il y en a énormément à faire aussi, indique le maire en rappelant que la ville de Gaspé comprend 145 km de littoral. L'offre en matière de sport, de plein air et de loisirs, elle, obtient un peu plus que la note de passage, avec un taux de satisfaction de 3,5 sur 5. Il s'agit d'ailleurs de la priorité dans le volet social. Bref, encore beaucoup à faire et les démarches se poursuivent, dans le but ultime d'élaborer une planification stratégique en route vers le 500e anniversaire de Gaspé en 2034. C'était « Les citoyens veulent plus de commerce, de transport et de logement », un texte de Jean-Philippe Thibault, paru le 17 février 2025 dans Gaspésie Nouvelle.
La géothermie en dessous du radar. Un texte de William Thériault paru le 12 février 2025 dans la presse. Il y a très peu de monde qui travaille là-dessus. Ça demeure un peu en dessous du radar, sous-estimé et sous-utilisé, la géothermie. On travaille pour le futur, pour ce qui se fera dans 25 ou 50 ans. Affirme Félix-Antoine Comeau, responsable du laboratoire ouvert de géothermie de l'INRS. Survol d'une énergie renouvelable peu connue. La géothermie, énergie renouvelable qui utilise les phénomènes thermiques de la croûte terrestre pour permettre de se chauffer ou se climatiser à la surface, représente encore seulement une fraction du bouquet énergétique québécois. S'il n'y a pas de chiffres officiels en la matière, l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, estime que moins de 1 % de l'énergie de la province est issue de ce processus. On a la chance d'avoir Hydro-Québec. C'est sûr que ça coupe un peu l'envie et l'ambition d'aller chercher d'autres sources comme la géothermie, justifie d'emblée Félix-Antoine Comeau, responsable du laboratoire ouvert de géothermie de l'INRS. Par contre, depuis 5 à 10 ans, on réalise qu'on utilise la moitié de notre électricité pour chauffer les bâtiments, poursuit M. Comeau. Selon lui, on pourrait remplacer cette électricité. C'est là que la géothermie peut jouer, dit-il. C'est d'utiliser notre portefeuille énergétique de manière plus efficace. Concrètement, l'énergie géothermique se divise en deux familles principales. La géothermie peu profonde, forage d'une profondeur de 100 à 200 mètres, chauffe et climatise les bâtiments au moyen d'un fluide qui circule à travers un circuit fermé. La géothermie profonde, forage d'une profondeur de 1 à 4 km, permet d'obtenir des températures supérieures à 100 degrés. Ainsi, la vapeur fait tourner des turbines qui génèrent de l'électricité. Entre les deux, Il est possible de pomper une eau à 40 degrés de 1 à 2 km de profondeur pour en faire une utilisation directe et éviter la thermopompe. La position géologique du Québec, au centre d'une plaque tectonique, favorise la géothermie peu profonde et rend la profonde plus complexe. Le potentiel. L'avantage du géothermique, comparativement aux autres énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire, c'est constant tout au long de l'année. À partir de 10 mètres de profondeur, la température demeure à environ 10 degrés, peu importe les saisons ou ce qui se passe à la surface, avance Félix-Antoine Comeau. L'idée est donc d'utiliser cette température, toujours par l'entremise du fluide qui parcourt un circuit pour refroidir l'été et chauffer l'hiver. L'inconvénient? Il faut faire des forages, donc ce sont des coûts très élevés au départ. Conséquemment, recourir à l'énergie géothermique pour un seul domicile peut paraître irréaliste, mais une fois installé, le système ne coûte plus rien et il est très fiable, souligne le chercheur. Ce qui est plus réaliste, c'est l'idée d'un écoquartier doté d'un système géothermique centralisé qui alimente de nombreuses maisons. Les bâtiments publics sont aussi une bonne clientèle. Les exemples sont rares, mais à Saint-Bruno de Montarville, sur la rive sud, il existe 5 complexes de condos fonctionnant selon ce modèle. Autre exemple. La ville de Spring Hill, en Nouvelle-Écosse, met à profit son potentiel géothermique en pompant l'eau de ses mines abandonnées et inondées. Une mine d'or de Yellowknife, capitale des territoires du Nord-Ouest, fait également l'objet de recherches de l'INRS pour déterminer son potentiel. Le Grand Nord québécois, lui, pourrait doublement bénéficier de cette technologie. En remplaçant le diesel par la géothermie, la région ferait des gains en termes environnementaux et d'efficacité. S'il choisit cette voie, le Québec pourrait s'inspirer de la Suède, pays aux caractéristiques similaires dont le secteur résidentiel est saturé de géothermie peu profonde. Tôt ou tard, les résidences seront connectées à la géothermie, prévoit Félix-Antoine Comeau, et pas mal tous les bâtiments institutionnels nouveaux, comme les écoles, vont systématiquement l'implanter. C'était « La géothermie en dessous du radar », un texte de William Thériault, paru le 12 février 2025 dans la presse.